L'évangile de Jean, chapitre 4, et on va lire donc le verset 4 à 14 pour que vous puissiez, pour que tout le monde puisse comprendre un peu l'histoire ou revoir l'histoire. Voilà, peut-être. Alors, Christian, est-ce que tu peux nous lire? Voilà. C'est quelques versets, donc suivez bien parce que je ne vais pas tout répéter, mais juste quelques expressions.
Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire ?» Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Voilà. Vous vous souvenez de cette prédication de Christian? Donc je reviens un petit peu dessus. Vous avez compris, c'est une belle histoire, une Samaritaine qui était étrangère pour Jésus, d'accord? Et finalement, à cette époque-là, il y avait des choses culturelles comme ça, où les Samaritains ne pouvaient pas parler avec des Juifs, etc. Voilà, il y avait vraiment un mur. Et elle-même, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais normalement, on ne parle pas avec les Samaritains, et puis toi, tu parles avec moi. Et donc, elle est venue donc, chercher de l'eau parce qu'il y avait la pluie. D'accord? Et Jésus, il est venu, il s'est déplacé. Vous voyez, ce n'était pas comme les kinés qui ne venaient pas. Il est venu, il s'est assis au bord de ce puits et il attendait Samaritaine. Elle est arrivée, et vous avez suivi donc l'histoire. Et ensuite, Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau, voilà, de cette eau, aura toujours soif. Donc c'est pour ça, ma prédication ce matin, je l'ai intitulée « Soyons une église productive ». Soyons une église productive. Et là, on arrive. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est bon? Jamais soif. Quelle différence? L'eau. Il parle de l'eau. Mais l'eau, ce n'est plus. Oui. C'est comme nous, nous buvons de l'eau. Moi, je liquide plusieurs petites bouteilles d'eau par jour parce que pour éliminer toutes ces produits qui ont injecté dans mon corps. Voilà, je bois beaucoup d'eau. Voilà. Mais en même temps, j'ai toujours soif. toujours soif. Mais Jésus parle de l'eau qui, à la suite de quoi, on n'aura jamais soif. L'homme ne peut pas avoir le soif si boit de cette eau que lui nous donnera. D'accord? Donc, il était clair que Celui qui boira de l'eau, que, voilà, vous vous souvenez de donc, cette parole de Christian qui parlait de cette façon-là. Et cette eau, donc voilà, ce que j'aimerais que vous puissiez s'arrêter ou retenir quelques expressions, que cette eau vive, hein, donc il appelait cette eau vive, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Donc n'oubliez pas une source. Vous voyez ce que c'est la source. Voilà, moi je suis un montagnard, j'ai vécu dans la montagne, et quand on était petit, voilà, ado, voilà, on allait sous la montagne et puis on cherchait de l'eau, hein, des petits ruisseaux qui coulaient. Et tout à coup, on se disait, ah ben, on va monter, et on va tout faire pour trouver la source. Et finalement, on est arrivé quelquefois, si ce n'était pas un grand ruisseau, mais juste un petit, voilà, l'eau qui coulait. On arrivait donc à la source, où cette source, de cette source, il y a de l'eau qui coulait. Cette source qui donnait de l'eau, ça coulait tout doucement, quelques gouttes comme ça au début. Et puis nous, on s'est dit, bah, on va prendre des cailloux, un peu de terre, et puis on va boucher la source. Comme ça, il n'y aura pas ces petits ruisseaux plus loin. Et puis voilà, c'est ce qu'on a fait, on a bouché la source. Seulement quelques minutes après, voilà cette source, voilà tout ce qui était au-dessus de cette source, voilà, ça a éclaté, ça a projeté, c'est tout qui a giglé, comme un jailli, hein, ce jaillissement, elle a jailli, et puis voilà, on avait plein de boue dans les visages, et on ne pouvait pas arrêter cette eau, voilà, parce qu'il y avait une source réelle, et c'est naturel, et là, la même chose sur le plan spirituel. D'accord ? Donc, si nous allons boire, si nous buvons de l'eau que Jésus nous donne, il y aura en nous une source d'eau qui jaillira jusqu'à l'éternité, de la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle, dans l'éternité. On n'aura jamais soif. D'accord ? Alors, mes amis, si toi et moi, si nous buvons de l'eau, voilà, ça a été dit aussi ce matin, si nous buvons de l'eau vive que Jésus nous donne, nous deviendrons une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est fort, hein? On n'aura jamais soif. Alors, tout ce donc vous voyez, tous ceux qui ont bu, qui boivent, qui vont boire encore, forment quoi ? Un corps de Christ. Un corps de Christ. Nous sommes un corps de Christ. C'est toi et moi. Tous ceux qui reçoivent Jésus, qui boivent de l'eau vive, forment un corps de Christ, l'Église locale. Avant tout. C'est comme des cellules, les églises locales. Et l'église locale, ah ben c'est quoi ? Ce n'est pas juste une structure administrative. L'église locale, c'est toi et moi, c'est vous et moi. C'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est tous ceux qui se sont tournés vers Jésus pour boire de l'eau vive. D'accord ? Ensuite, l'église locale. Donc toi et moi, nous formons une église locale. L'église locale, c'est toi et moi, je me répète, devient une source d'eau qui jaillit. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui jaillissent, il y a des choses voilà, qui coulent de nous, d'accord ? Et qui deviennent, tout ce que nous recevons, ça devient une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, l'éternité. Alors l'Église sera donc productive, créative, à partir du moment que dans cette Église, il y a une source d'eau vive. Je me répète. Et cette eau vive, cette source d'eau vive, c'est qui ? C'est Jésus. Parce que l'eau symbolise quoi ? La vie. Et Jésus arrive dans notre vie, d'accord ? Et nous nous réunissons ensemble pour former un corps, et ensuite le corps est en action. Ce n'est pas juste pour dormir, pour rester en stand-by, pour être statique, mais l'Église devient un outil d'action, un outil qui n'est pas du tout morte, traditionnelle, mais une Église qui vit et qui agit. Donc, c'est vrai que Jésus habite en nous par son esprit. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dans la chambre, voilà, je vous ai déjà dit, j'avais aucune force, j'étais comme ça. Et puis donc, il y a les infirmières et les infirmiers, et puis les médecins. Voilà, ont eu beaucoup, beaucoup de contacts avec moi parce qu'au début, ils ne savaient pas quel est le problème. Donc voilà, des examens. C'était fatigant. Et tout à coup, donc, il y a une dame qui vient, et encore, les infirmières rentrent dans la chambre, et ça dure 2 minutes, ça va vite, parce qu'ils ont beaucoup de travail, et quel courage, hein. Et j'étais vraiment bien servi, bien entouré, bien servi, etc. Ils étaient tous très gentils. Et quelquefois, donc il y a une dame, à un moment, voilà, elle change les antibiotiques en moins, tout, ils avaient des tuyaux partout. Et puis il y en a une qui me demande, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ? Ah ben, j'ai dit, vous savez, toute ma vie, j'étais pasteur. Bon, d'accord, ça bloque tout de suite parce que, voilà, pasteur. Donc, il y a un blocage. Et puis, cette dame, elle est partie. Quelques minutes après, elle revient dans la chambre. Voilà, j'étais très fatigué, mais je l'ai reconnu. Elle ouvre la porte et comme jamais, elle dit, « Alléluia !» Ah, vous êtes croyant, vous croyez ? Ah ben, il dit, là où on parle de Dieu, donc c'est Alléluia. Donc voilà, j'ai compris que... Alléluia. Ah bon, d'accord, c'est bon. Je pense que j'ai raconté ça au peps, pour ceux qui étaient là. Et puis ensuite, il y en a une deuxième qui arrive le lendemain. Et voilà, elle fait tout ce qu'il faut, voilà, autour de moi. Et puis ensuite, elle part, ça va tellement vite. Elle s'arrête brusquement. Et elle me dit, « Mais monsieur, mais vous êtes qui ?»« Ben, je suis moi, je suis Antoine Nocek. »« Oui, mais vous êtes différent que les autres. »« Ah bon, différent ?»« Oui, différent. Bon, j'ai perdu les cheveux, je ne suis pas jeune. J'ai... D'accord, on est tous différents, hein. » Oui, mais vous savez, quand on rentre dans votre chambre, on sent quelque chose. Ah bon, j'ai plus de force, je suis là, madame, je ne dégage rien de moi. Ah non, il dit. On rentre dans cette chambre et il y a quelque chose. Alors moi, dans mon cœur, merci mon Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Moi, je n'ai pas de force, mais le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire, ta présence est là. Les gens sont touchés, visités. Et puis même les médecins aussi, ils parlent un petit peu moins que les infirmiers. Voilà. Et on avait tellement, parce que chacun cherchait dans son domaine le problème. Et il y en a un qui est venu à la fin et m'a dit... Monsieur, vous êtes un sacré résistant. Hein? Je dis pourquoi ? Ben Vous vous rendez compte d'où vous venez? Il y a quelque chose. Ils ont vu quelque chose en moi. Et j'ai commencé à croire parce que c'est eux qui me disaient qu'il y a quelque chose en moi. Ah, des expériences remarquables. J'en ai beaucoup, hein, de beaucoup comme ça, dans ma faiblesse. Hein. Comme je me répète, voilà. Et ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'un jour, comme ça a été dit, déjà dit ce matin, quand j'étais jeune, ah, il fallait prendre une décision personnelle. Et cette décision, c'était quoi? Alors, j'ai accepté Jésus. Je me souviens, il y avait une réunion, voilà, puis il y avait une... Pour moi, à l'époque, je le considérais comme un vieillard. Il avait peut-être mon âge aujourd'hui, mais aujourd'hui, moi je ne suis pas vieillard. Cet homme-là, il a prié pour moi, il a fait comme Jésus. Voilà, il s'est approché vers moi, il m'a imposé les mains, j'avais des cheveux, j'avais une belle chevelure. Et tout ça, j'étais un bon garçon, bon garçon. Et il a mélangé mes cheveux, tout ça. Oh là là, j'ai pensé à mes cheveux, ma tête, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passait. Il y a une présence de Dieu. Il y a quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et là, j'ai compris, bon, je passe les détails, là, j'ai compris que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui s'intéresse à moi, un Dieu qui s'intéresse personnellement à moi. Et puis voilà, cette eau vive est venue et entrée dans mon cœur. Et puis depuis cela, depuis 17 ans, je suis toujours là. Jamais douté. Jamais quitté Dieu. Mais jamais. Voilà, oui, il y avait des problèmes, des difficultés. On a tellement 50 ans. Mais on était toujours fidèles, même quand on s'est marié. On a dit, Jésus, nous avons besoin de toi. Viens en tant que troisième. Et nous allons vivre ensemble à trois. Nous allons avancer à trois. Donc, il y avait cette eau vive en moi, tout le temps. Je n'ai jamais soif de tout ça, même dans mes faiblesses. Le corps est affaibli, mais là, la foi est là. Et on est une bénédiction. Une bénédiction. Si je vous raconte des histoires, tout ce que j'ai vécu, toutes les petites choses, et même pour l'Église, Kobiak et comment Dieu nous a bénis, parce que, voilà, il y a une source en moi, il y a une source en nous, il y a une source dans l'Église, et l'Église locale devient une source de bénédiction. Amen. Bénédiction autour de nous, pour ceux qui sont donc autour de nous. Donc, l'Église est là. L'Église existe avant tout. Pourquoi? Pour adorer Dieu. Amen. Et quand on adore Dieu, ben voilà, ça coule, ça nous remplit, ça nous renouvelle. L'Église, cette cellule, d'accord, existe pour annoncer et communiquer quoi? Ben la vie. L'Église existe pour former des disciples. On n'est pas trop ici, on ne parle pas trop de disciples, mais finalement, c'est ce que nous faisons dans toutes sortes de réunions partout, les fondamentaux, etc. Forme des personnes qui se donnent à Jésus pour qu'ils deviennent donc des chrétiens solides, des disciples, d'accord? Et aussi, l'Église existe. Je vous ai dit que nous sommes devenus. Il fallait que nous soyons une église productive. Donc, l'église forme aussi les gens en service. Alors, on nous a dit ce matin, on a tellement de choses, vous voyez, à faire dans une église. Quand on est ensemble, il y a une structure spirituelle et aussi administrative. D'accord? Donc, nous formons, nous expliquons. Voilà, dans différents départements. Je suis venu entre deux ici pendant la semaine. Cette semaine ici, j'ai vu des gens, des personnes qui sont actives à l'Église et puis qui faisaient les choses pratiques, le diaconat. Je suis venu une autre fois, j'ai vu qu'il y avait des gens qui bouchaient les trous là-bas, voilà, pour que ça soit plus beau. Et moi-même, ce matin, je suis arrivé. Ah ben, j'ai pu un peu programmer, mettre les chauffages aux routes. Voilà, parce que j'aime ça. Ça fait, voilà. Donc, vous voyez, une église qui est en action. Formée de ceux qui servent et formée des ministères. Les ministères, c'est les personnes qui enseignent, les personnes qui sont là pour former d'autres, les gens qui donnent des études bibliques, etc. D'accord ? Bon, je ne vais pas trop développer. Église est là pour édifier, pour fortifier, édifier les uns les autres. Vous avez vu, quelquefois, il y a des malades, je ne vais pas toujours parler de moi, mais on a besoin de faire un service auprès de téléphoner, aller prier, et puis d'autres personnes qui ont des problèmes. Voilà. Donc, nous sommes là pour édifier, pour consolider la foi de tous ceux qui s'approchent de Dieu. Amen. Voilà. Et ensuite, nous sommes là aussi pour encourager les uns les autres. Alors, nous avons reçu un message, ici, il y a quelques jours, je pense, de quelqu'un qui a le cancer du sein, de nous, parmi nous, de l'Église. Je pense que cette personne n'est pas là, je ne vais pas la citer. Mais Christiane, elle a vécu ça aussi, je sais ce que c'est, comment c'est terrible pour un homme, pour un mari, d'apprendre que sa femme, elle va être opérée, que son sein sera peut-être enlevé. On parle de l'ablation, etc., etc. Comment c'est pas facile pour un homme qui aime sa femme et qui dort avec elle et qui partage des choses avec elle. Et puis tout à coup, on lui dit, voilà, ça se passe comme ça. Et cette dame, elle nous a envoyé, je ne vais pas la citer parce qu'elle n'est pas là ce matin, voilà, c'est deuxième degré. Ah ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui fait l'Église? Ah ben, la même chose. Quand ça deviendra officiel, ah ben, on va vous annoncer qui c'est. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va prier, hein, chérie? On va prier. Prier. On va soutenir les uns les autres. On a besoin les uns les autres. Et moi, je peux vous dire que si moi, j'ai résisté, c'est parce que j'ai senti que ce n'était pas mon combat personnel, c'était le combat de ma famille, c'était le combat de mon église, de notre église, et c'était le combat d'autres chrétiens qui sont partout, qui nous connaissent et qui priaient pour moi. Moi, j'étais là et je n'avais aucune force pour combattre. Donc, vous voyez, l'église est là pour être productive.